Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, ce soir comme chaque dimanche, pour terminer cette émission Soft Power, nous sommes avec Emmanuel Paquet de l'Express, Vincent Cocasse qui nous rejoint de Libération, et donc Bruno Patineau et Nathalie Coste-Cerdan qui sont restés avec nous. Avengers, la chronologie des médias, la nouvelle plateforme de Disney, Marvel, tels sont les sujets dont on parle ce soir, notamment à partir de ces chiffres qui viennent de tomber il y a quelques minutes. Ce film, donc Avengers, dernier titre, Endgame, 22e des studios Marvel Disney. 350 millions de dollars en deux jours, je crois, Emmanuel Paquet seulement, puisque le film est sorti que vendredi aux États-Unis, alors qu'il est sorti mercredi en France. Plus de 1,2 milliard de dollars au niveau mondial. C'est, on peut le dire tout court, le film le plus successful de l'histoire en termes de ses premiers jours de sortie.
Oui, en si peu de temps, effectivement, 1,2 milliard, ça s'était jamais vu. Encore une fois, le chiffre, ce qu'on peut voir, c'est que dans 44 pays, des records ont été battus sur les 56 dans lesquels le film a été distribué aujourd'hui. Donc c'est quand même un phénomène planétaire, même la Chine y participe, on y reviendra tout à l'heure, avec des chiffres qui dépassent tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Alors il faut savoir que le Marvel Cinematic Universe, le MCU comme on l'appelle, a commencé en 2008, donc ça fait quasiment 11 ans. Aujourd'hui il y a eu 21 films qui ont été réalisés, le premier de la série, donc c'est le premier Iron Man en 2008. Au total, la franchise Marvel a rapporté 18,6 milliards de dollars et a été rachetée donc par Disney en 2009 pour 4 milliards de dollars. Donc le dernier Avengers, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin du troisième cycle, ce qu'on appelle dans le MC Universe, et le démarrage d'un quatrième qu'on devrait voir arriver fin 2019, début 2020. C'est aujourd'hui probablement l'une des franchises même qui rapporte plus que Star Wars à Disney, et tout en sachant qu'on voit aujourd'hui de beaucoup de productions, puisque le catalogue était jusqu'à présent détenu en grande partie par Disney, mais également par Fox, puisque Fox détenait les droits sur certains personnages du type X-Men, les 4 Fantastiques ou Deadpool. Et maintenant que Fox a été racheté pour 66 milliards par Disney, et ben le catalogue va être récupéré par Disney, et donc il va y avoir un X-Men qui va sortir cette année, donc ce sera encore un film de super-héros, et il y en aura probablement un autre dès cette année également, mais là produit par Sony avec donc Spider-Man. Donc les films de super-héros aujourd'hui, c'est un peu la nouvelle mythologie du 21e siècle, hein. On voit autant de films de super-héros que de héros grecs à l'heure de la mythologie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le catalogue Marvel, il y a 2500 personnages. Oui. Donc Disney a de quoi faire pendant des années et des années.
Qui autour de cette table a vu le film? Allons-y. Bruno Patineau.
Personne.
Pas encore. Non, j'ai dans un cinéma de banlieue hier, je suis allé voir El Reino et j'ai été subjugué par la taille de la file d'attente pour voir Avengers Endgame.
El Reino, c'était super. Est-ce qu'on peut dire quand même, vous l'avez dit, que c'est la fin du troisième cycle et s'il bat tous les records, je pense que c'est le film, et ça a été écrit plusieurs fois, plus depuis la sortie, le film où en termes le budget de cachet d'acteurs, et je pense aussi le plus important de l'histoire,
tout le monde,
parce qu'en réalité
Chris
il y a
Evans,
tous les gens qui ont
Robert
participé
Downey
à
Jr.,
tout, je ne sais
Mark
pas,
Ruffalo,
à part
Scarlett
Brad
Johansson,
Pitt et George
Cooper.
Clooney, je ne sais pas qui n'est pas dans ce film, Nathalie Portman, parce qu'en plus tous ces gens qui sont tous d'énormes stars, Gwyneth Paltrow, etc., font des apparitions très courtes, mais ils sont liés, ils sont tenus par un contrat qui les oblige à revenir, et donc en termes de cachet, je pense qu'on est sur des chiffres, mais absolument inimaginable pour des gens de l'industrie.
J'évoquais la question de qui l'avait vu, mais il était impossible de voir ce film aujourd'hui. Par exemple, depuis ce matin à Paris, toutes les salles étaient complètes, ce qui n'arrive jamais. Hier soir, il était impossible de voir. Alors, c'est un film long, il faut dire, donc on ne peut pas le mettre trop souvent dans les cinémas, Emmanuel Paquet a essayé de le voir hier soir. Moi aussi, ce matin, c'était Non, mais on parle du phénomène, on parlera du succès par la suite. Et on parlera du film dimanche prochain. Sur ce sujet, Vincent Cocasse, qu'est-ce qu'on peut dire de Avengers par rapport à cette plateforme qui devrait être lancée en fin d'année, sans doute en Europe en 2020.
Oui, Disney va se positionner très fortement sur le marché de ce qu'on appelle la SVOD, donc la VOD, la vidéo à la demande sur abonnement payant, donc grosso modo le modèle de Netflix. Ce qu'on peut dire, le lien avec Avengers, pourquoi on en parle ce soir, c'est parce qu'en fait, Avengers, tout simplement, les films ce qu'on appelle le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, vont être tout simplement les produits d'appel de ce nouveau service. Le phénomène va être mis au service de cette nouvelle plateforme. Comment? Ça, c'est le PDG de Disney qui l'a expliqué, en réservant l'exclusivité de ses films pour la plateforme qui n'est même pas encore sortie. Ça veut dire qu'en fait, pendant grosso modo un an, dans le monde entier, Disney va s'asseoir sur les droits de diffusion de ses plus gros films, ce qui représente en gros, ils ont estimé à 150 millions de dollars, donc ce qui est colossal, hein, parce que c'est, ça représente 10% de ce que Disney va mettre
en termes de perte de revenus. Ouais.
Voilà, en termes de perte de revenus, en refusant de le vendre, de vendre les droits à Netflix ou à Amazon, par exemple, uniquement pour se garder les droits pour le lancement de cette plateforme qui sera lancée aux États-Unis fin 2019. On n'a pas la date encore pour la France, mais on estime que ça sera courant 2020.
Donc une sorte de Netflix réservé aux films Disney, Marvel et peut-être à quelques autres qu'ils coproduiront.
Mais beaucoup plus que ça, il y a tout le catalogue. Enfin, on n'est pas encore sûr, mais il faut quand même dire que c'est quand même un moment de changement fondamental. C'est 6,99 $.
Ou moins cher.
C'est rien par rapport que c'est. En plus, Netflix a augmenté ses tarifs, donc qui sont à 12,99 maintenant. C'est effectivement tous les Disney, tous les Pixar, tous les Star Wars, tous les Marvel, les actifs de la Fox qui sont énormes. Et en plus, ils sont en train, vous le savez, Disney, qu'il possède une partie de Ulule, qui est cette aussi de Hulu, pardon, oui, je sais. Alors,
H-U-L-U.
Voilà, je me suis trompée. On parlait de crowdfunding il y a deux semaines, tout est perdu. Donc Hulu, qui pour le coup, ils doivent récupérer 30% à Comcast, mais s'ils récupèrent aussi le catalogue d'Hulu, qui est un peu plus cinéphilique, vaguement, mais un peu, pas tellement plus, mais en tout cas, on n'est pas que sur du Disney. Ça veut dire, à 6,99 $, c'est qu'ils peuvent imaginer qu'en fait, n'importe qui a des enfants va s'acheter cette plateforme, en plus d'en avoir d'autres. Il table sur 60 à 90 millions d'abonnés d'ici à 2024, dont les deux tiers en dehors des États-Unis. Pour, à titre de comparaison, c'est 140 millions d'abonnés pour Netflix aujourd'hui, au bout de quasiment une dizaine d'années d'activité, on va dire, au niveau mondial.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors il y a une étude justement qui vient de sortir aux États-Unis. Disons que il y a à peu près 14% des abonnés Netflix qui pourraient quitter Netflix pour s'abonner à Disney+, quand ils ont vu le prix justement assez attractif de 6,99 $. Mais une seconde étude, là pour le coup, qui est totalement à l'opposé, dit que le consentement à payer pourrait porter jusqu'à 6 abonnements à des plateformes différentes, donc à Amazon, Netflix, etc. Donc 6, c'est déjà énorme. En France, on approcherait déjà d'un consentement à 3 plateformes.
Si
déjà
on considère Spotify, par exemple, ou Deezer, ou d'autres plateformes.
Non, simplement vidéo. Vidéo, effectivement. Et en France,
donc,
on s'approcherait
OCS,
déjà.
Etc.
Voilà, c'est-à-dire, si on met aujourd'hui OCS avec Amazon Prime, donc on se fait livrer plus rapidement, et en plus, on peut regarder de la vidéo, et on ajoute Netflix, on a déjà 3 services.
Sur cette question, Bruno Patidon.
Non, mais je pense que l'annonce principale, en fait, c'était celle du prix. Parce que celle du prix a montré qu'effectivement, ils n'allaient pas aller en guerre frontale avec Netflix, mais qu'ils allaient décider d'être un complément de Netflix. Donc je pense que ça a paradoxalement favorisé aussi Netflix. Et en fait, il y a encore quelques années, on pensait que ce qu'on appelle le cord cutting, c'est-à-dire le fait aux États-Unis de ne plus avoir accès au câble, permettrait aux foyers de faire des économies. Aujourd'hui, l'étude que Emmanuel Paquette mentionne montre que finalement, on va retrouver à peu près le même prix que les foyers américains payaient pour les câbles opérateurs pour des plateformes. Donc, en fait, il y aura eu, d'une certaine façon, un contournement de ces câbles opérateurs, ce qui pose évidemment la question pour la France du devenir des fameuses box, parce que l'IPTV, donc la télévision distribuée par les boîtes, aujourd'hui, c'est 60% des foyers. Netflix est sur une des boîtes Orange, pas sur les autres. En OTT, elle est déjà là. Disney va arriver en OTT aussi. Donc, toute la question du cord-cutting aux États-Unis va arriver en France avec la question sur les boîtes et les box.
Vincent Caucase.
C'est intéressant de dire que c'est pas en concurrence directe avec Netflix, aussi parce qu'ils ne veulent pas être en concurrence directe avec Netflix, même sur le catalogue. Ils ont dit que ça serait un catalogue de, ils appellent ça du divertissement familial. Donc, ils n'iront pas, ce qui est pas tout à fait, en fait, la cible de Netflix, même s'il y a beaucoup de contenu pour les enfants. Ils ont clairement assumé qu'il n'y aurait pas de contenu spécifiquement pour les adultes et uniquement pour les adultes sur
avec
leur
des,
plateforme.
Des séries avec beaucoup de sexe, etc.
Il y a quand même peut-être un sujet autour du budget temps, c'est-à-dire autant le budget argent, comme vous disiez, il y a une acceptation potentielle pour 6 abonnements à des services de séries, mais au bout d'un moment, les gens, ils ont quand même un rythme de vie qui ne leur permet pas de consommer autant d'offres. Donc il va y avoir quand même une guerre commerciale, même si elle est ajustée au niveau tarifaire, qui va quand même être une espèce de fracture très forte dans l'univers du divertissement aujourd'hui.
Bruno Patino.
Oui, c'est juste, mais comme ce qui aujourd'hui a l'air de motiver l'abonnement, c'est le fameux FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater. Le fait de détenir des licences Marvel ou autres, comme Star Wars, fait que la peur de le rater fait que vous vous abonnez. Et d'où la politique de Netflix aussi, d'avoir des productions originales lourdement marketées pour que vous ayez à votre tour peur de les rater.
Et localisées d'ailleurs.
Et tout à fait localisées.
Et de plus en plus localisées.
Et Disney, ça fait partie des promesses. 25 séries originales et 10 films originaux par an, promesses sur la plateforme uniquement. On sait qu'il y a déjà des films qui vont directement sortir sur cette plateforme sans même passer par la case cinéma comme produit d'appel. Donc c'est aussi une promesse, disons, importante de Disney qui ne compte pas et qui sait très bien qui ne compte pas être rentable avant 6 ans sur cette plateforme.
Parce que vous parlez, Bruno Patino, de peur de rater. On peut citer évidemment Game of Thrones, par exemple, qui en France est sur OCS, d'ailleurs ce soir et tous les dimanches soir. En l'occurrence, c'est produit par HBO. Ça veut dire que chacun va également sortir sa plateforme. HBO l'a d'ailleurs laissé entendre. Emmanuel Paquette, Bruno Patino.
Alors celle de HBO, elle existe. Hein. Elle est déjà en Espagne, elle est dans toute l'Europe du Nord. Voilà. Mais elle n'est pas en France, effectivement, puisque OCS a les droits exclusifs jusqu'en 2021 ou 2022, de mémoire.
21,
c'est ça, exactement. Donc on verra ce qui se passera après 2021.
Mais on peut avoir une l'hypothèse est assez probable, assez facile, non?
A priori, il pourrait s'attaquer au marché français, effectivement. Donc ça,
chercher des alliances avec des acteurs existants.
Exactement.
Oui, Caucase.
Non, ou chercher justement. Je trouve que effectivement le fait de dire que les gens n'ont pas le temps de consommer des contenus sur 5 ou 6 plateformes différentes va aussi pousser à un moment à une concentration du marché. Là, on est encore au début du marché de la SVOD. Mmh. On en a cité 3, mais avec une puissance de frappe qui est beaucoup plus importante pour Netflix. On pourrait citer aussi MyCanal qui a un petit peu aussi ce valeur de SVOD dans la consommation. D'ici quelques années, effectivement, il y a des acteurs qui risquent de rester sur le carreau.
Bruno Patino.
Oui, mais je sais bien que le budget temps, c'est ce que dit Nathalie Coste-Cerdan, est tout à fait juste, mais c'est paradoxal parce que il y a 2 jours, la BBC a publié une étude montrant que, en fait, elle avait perdu des parts de marché dans le streaming de façon considérable suite à l'arrivée de Netflix. Et en fait, quand ils ont demandé aux utilisateurs la raison, c'est en raison de la faiblesse de la profondeur du catalogue. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à la fois on a un temps limité pour regarder ces plateformes-là, mais on leur demande d'avoir une offre quasiment illimitée, comme si on allait les regarder à toute heure de notre vie.
Paradoxe c'est que vous décrivez dans votre livre d'ailleurs.
C'est un paradoxe certes décrit dans le livre.
Et sur Arte, c'est comment d'ailleurs ?
Mais juste pour finir sur HBO, c'est ça peut-être qui peut empêcher HBO de venir en France, c'est que la profondeur de leur catalogue en France ne justifie pas un abonnement à une plateforme unique.
Et Arte plus 7, on vous regarde toujours ou pas ce fameux?
Arte plus 7, on nous regarde toujours, mais on nous regarde toujours de plus en plus en dehors des 7. C'est-à-dire qu'en gros, le plus 7 n'est plus un plus 7, c'est souvent un moins 7, moins 10, et de temps en temps un plus 30, ça dépend des moments. On essaye de mettre toute une saison quand elle est disponible d'une série, et on remarque qu'on est de moins en moins, entre guillemets, en rattrapage, mais de plus en plus en autre chose. Les gens savent qu'une série arrive, ils regardent l'intégralité sur Arte, et souvent ils commencent avant même la diffusion antenne.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors il y a un autre risque qui est aussi le churn, le taux d'attrition, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des gens quitter les services quand une saison se termine, en attendant de se réabonner pour la prochaine saison dès qu'elle arrivera. Donc ce principe,
oui, avec
en fait,
notamment une très grande facilité sur Netflix de s'abonner, de se désabonner, etc.
D'activer, de réactiver.
On peut le prendre juste pour Game of Thrones par exemple, pour OCS, et puis arrêter juste après.
Exactement. Et ça, avec le plus de plateformes il y aura, le plus de taux d'attrition entre les plateformes, il risque d'y avoir. Alors on voit bien que tout ça va se jouer avec l'argent et notamment les productions. Là, Netflix vient de faire un nouvel appel au marché avec 2 milliards de dollars. Au total, ils sont endettés à hauteur de 12 milliards. Donc la question est de savoir, est-ce que les 150 millions d'abonnés aujourd'hui Netflix vont rester abonnés, parce que s'ils commencent à partir, ça va être difficile pour Netflix de pouvoir rembourser les 12 milliards avec des échéances qui sont entre, disons,
même
4
si
à 5
Netflix
ans.
Continue à miser sur l'élargissement des territoires, notamment évidemment des pays où ils ne sont pas encore assez présents et où chaque fois ils ont très vite un succès. Donc.
Exactement, sauf qu'il y a un territoire sur lequel ils n'iront jamais qui s'appelle la Chine.
Chine, ouais.
Donc là, pour le coup, qui est un énorme réservoir de croissance, mais la Chine eux-mêmes poussent leurs propres acteurs locaux,
leur Netflix local,
qui risquent eux-mêmes, à un moment ou à un autre, de sortir des frontières et de vouloir attaquer les marchés étrangers. Donc on risque de voir à un moment donné les Américains face aux Chinois sur des plateformes avec des productions mondialisées.
C'est un prix d'appel, vous croyez, ou ça restera pour Disney? Parce que ça peut être aussi un prix d'appel la première année, les premières années.
Oui, les premières années. Après, personne d'entre nous ne peut prévoir ce qui va se passer. Mais ce que disait Emmanuel Paquette est juste. C'est pour ça que Netflix commence à programmer maintenant ses sorties de séries et même à les annoncer comme si c'était des sorties de cinéma, en fait. Vous savez que tel mois, il y aura la Casa des Papel 3. Tel mois, vous aurez...
Avec des pubs dans le métro,
vous aurez,
comme si
exactement,
c'était des films.
Vous aurez Sex Education 2, etc., etc. pour justement chaîner ces sorties-là pour éviter le désabonnement.
Ce qui était beaucoup moins le cas avant, où ils jouaient presque plus sur l'effet de surprise.
Exactement.
Avec parfois des séries qui arrivaient, ou des nouvelles saisons qui arrivaient sans avoir été du tout annoncé, ce qui a marché pendant un certain temps, je pense, et ce qui est effectivement plus compliqué quand les gens sont abonnés depuis 6 mois, 1 an, 2 ans à Netflix.